action.
Je n'arrivais pas à dormir. Il était 3h du matin, alors j'ai écouté la BO du choix du pianiste. Et à la fin de l'album, l'algorithme Spotify m'a fait enchaîner avec la radio du cinéma.
J'ai l'immense bonheur d'accueillir François Touraine dans le film. Je veux parler d'Oscar Le Sage, qui est le premier rôle de ce film. Bonjour Oscar et bienvenue à la radio du cinéma.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Ben avec grand plaisir. Oscar, donc, je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter un tout petit peu. Vous faites partie de cette valeur montante des acteurs français. Et donc du coup, vous avez tout un parcours que vous allez, s'il vous plaît, nous présenter.
Bien sûr. Alors je m'appelle donc Oscar Le Sage, je suis un acteur franco-britannique. J'ai grandi à Mulhouse, en Alsace. J'ai commencé à faire du théâtre assez tôt, vers l'âge de 9 ans.
C'était un peu mon... Ça démarre très jeune.
Ouais. C'était un peu mon exutoire. J'aimais pas trop l'école et donc c'était un peu le moment de la semaine. C'était le mercredi après-midi où je me sentais vraiment libre.
Vous étiez un enfant timide ou plutôt extraverti?
Un peu des deux. Okay. J'étais bizarre, je crois. pas bizarre, mais...
Vous cherchiez.
Ouais, on peut dire ça. J'étais beaucoup dans les livres, beaucoup dans mon imagination, on va dire.
On vous a un peu écarté, c'est ça? Ou on vous a marginalisé un peu?
On m'a marginalisé de manière plus ou moins violente. Mais aujourd'hui, tout va bien. Et puis, ça m'a valu aussi des très belles choses. Donc, ensuite, je suis allé à Paris à l'âge de 17 ans. J'ai fait le cours Florent pendant 5 ans.
D'accord.
Le cours Florent.
C'est une base.
Oui, et ensuite la classe libre, qui est donc une classe au sein de l'école où on passe un concours pour y rentrer. Et après ça, je suis allé 3 ans à Lille, à l'école du Nord.
Concrètement, Oscar, ces deux expériences, entre guillemets, semi, voire professionnelles en fait, est-ce que clairement ça a été votre solfège? Vous avez tout appris?
Non, j'ai pas tout appris, parce que j'apprends encore aujourd'hui.
Parmi nos auditeurs, en fait, il y a des gens qui potentiellement pourraient vouloir devenir comédien ou acteur.
Ouais.
Est-ce que vous conseillez ce cheminement? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres façons d'apprendre le cinéma et le théâtre?
Alors, c'est sûr qu'il y a d'autres façons d'apprendre. D'accord. Moi, je sais qu'elle m'a apporté beaucoup de choses. La seule chose, c'est que je dirais que moi, j'ai fait 8 ans de théâtre, c'était peut-être un peu beaucoup. Je dirais que j'ai fait des études de médecine, quoi, mais... Mais après, ça a été des moments...
Vraiment, aujourd'hui, vous allez opérer.
Oui. Absolument.
Dans un autre registre.
Bien sûr. Oui, avec des faux outils et du faux seum, bien sûr, mais bien sûr. Et donc voilà, et puis après j'ai commencé à travailler, j'ai eu de la chance, j'ai travaillé directement à la sortie de l'école. Des séries, des films, notamment Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi, la série Bardot, la série Marie-Antoinette. Je fais beaucoup de biopics sur des grandes femmes de l'histoire. C'est un peu mon credo. Et puis... récemment...
Juste avant, pour vous préciser un petit peu les choses, quand on sort en fait de l'école, comment ça se passe pour se faire repérer au tout départ? Vous avez fait des castings? Vous avez été voir des gens? Ou des gens vous connaissez de l'école? Ou comment ça marche?
J'ai commencé à passer des castings pendant que j'étais à l'école.
Ah, d'accord. Vous aviez déjà anticipé le coup d'après, quoi?
Ouais, vaut mieux. Il y a des gens qui attendent la sortie de l'école pour se lancer, mais franchement, faut y aller direct, quoi.
D'accord.
Parce que c'est le marché du travail pour un acteur, il est pas très évident, quoi. Je sais pas s'il est évident quelque part dans ce monde, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de compétition dans le monde de l'actorat, et donc vaut mieux se lancer direct.
Donc vous avez multiplié les opportunités d'aller sur des castings, des choses comme ça?
Ouais.
Génial.
Ça, et puis...
Et à un moment donné, ça vous a sauvé.
Ouais, c'est ça. En fait, une fois que ça commence à marcher, entre guillemets, ça s'enchaîne plus facilement, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et gentiment, on arrive donc à ce film Le Choix du Pianiste.
Ouais.
Racontez-nous un petit peu, déjà la rencontre avec Jacob Haute-Mesguin, qui est donc le réalisateur du film.
Par la voix classique et royale, je sais pas en fait, mais du casting.
D'accord.
J'ai passé un casting.
Vous avez passé un casting,
voilà. Je crois qu'il a pris 2 scènes et... Il me fait les 2 scènes, il m'a dirigé, on les a refaites. J'ai mangé un pain au chocolat que m'a offert Nelly, la productrice, et puis voilà. Et chose pas trop commune, il n'y a pas eu de callback, je suis direct que j'avais le rôle. Je crois pas sur le moment, mais 2-3 jours plus tard, je savais
quasiment
que j'avais le rôle, quoi.
Donc ça a dû vous faire très chaud au cœur.
Ouais. J'ai senti que c'était bien passé, en plus c'était une scène où je devais parler à quelqu'un qui n'est pas là, donc parler tout seul. Et là, pour le coup, je pense que mes bases théâtrales m'ont rendu...
Les fondations de votre apprentissage vous ont rendu service?
Les fondations techniques de mon apprentissage.
C'est vachement intéressant.
Parce que c'était un peu du rythme, fallait un peu se raconter un dialogue imaginaire dans sa tête.
Faites-nous vivre un peu, Oscar, cette expérience quand vous rentrez dans une pièce. Comment ça se passe pour les auditeurs de la radio du cinéma quand vous faites comme ça un casting, ouais. Qui vous accueille? Il y a combien de personnes et est-ce que c'est stressant? Vous êtes très nombreux. Racontez-nous un petit peu en inside comment ça marche.
Franchement, ça dépend. J'ai passé des castings atroces.
Pour ce projet-là.
Pour ce projet-là, ouais. C'était très agréable. Il y avait le directeur de casting, il y avait Jacotte Mesguine et Émilie Caparly, la productrice. Jacotte Mesguine, le réalisateur, oui. Donc, vous étiez trois dans la salle.
Ils se font installer derrière une table? Comment ça marche, en fait?
Je crois, oui, de mémoire, ils étaient installés derrière une table. On mange une petite pièce. On se présente. On a peut-être fait des italiennes, mais je m'en souviens plus. Et puis, des italiennes, c'est ceux qui ne sauraient pas, c'est se faire le texte à plat, comme ça, sans jouer.
D'accord. Si vous le lisez, quoi.
Oui, enfin, moi, je le connaissais, donc je ne lui dis pas, mais je lui dis. Et puis, voilà, quoi, on se lance. Et action.
Et vous rendez la réplique à quelqu'un ou ils étaient tout seuls en scène? Enfin, tout seul en
Bah là, de mémoire, c'était le directeur de casting qui donnait la réplique, ouais.
D'accord. Pour vous appuyer un peu émotionnellement.
Ouais. En général, il y a toujours quelqu'un qui donne la réplique, sinon c'est quand même assez compliqué.
C'est vraiment super gentil, Oscar, de nous partager ça, parce que c'est des expériences, évidemment, que peu de gens ont le plaisir de vivre.
Ouais.
Et là, pour le coup, les auditeurs seront ravis d'être un peu en inside et de les avoir un peu vécu à vos côtés en ce moment-là.
Surtout que je pense qu'on a... Il y a souvent dans les films américains, on voit des castings, mais c'est du point de vue d'Hollywood, donc c'est des queues de 40 personnes qui attendent et puis ils lisent le texte en 20 secondes, c'est merci, on vous rappellera. J'ai déjà vécu des castings comme ça, mais d'habitude ça se passe quand même un petit peu mieux.
Oui, beaucoup réduit comme genre d'ambiance. Quoi, et c'est,
non,
ouais. Je peux comprendre, d'accord. Oscar, donc, démarre ce projet Le Choix du Pianiste.
Ouais.
Vous occupez le rôle principal. En l'occurrence, vous êtes le personnage qui s'appelle François Touraine, d'accord. Vous êtes passionné depuis tout petit. C'est très amusant parce qu'on parle de théâtre tout à l'heure à 9 ou 10 ans. Et là, c'est un peu pareil, mais c'est avec un instrument de musique.
Ouais.
Et donc, du coup, racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe et dans quelle famille vous évoluez,
ouais.
Et comment finalement les relations s'opèrent dans un premier temps, parce que c'est déjà la première épreuve pour vous. Vous êtes un gamin, mais il se passe déjà pas mal de choses en interne.
Bah oui, donc François grandit au sein d'une grande famille bourgeoise, commerçante, réputée parisienne.
Plutôt riche.
Plutôt très riche.
Voilà, avec des ambitions évidemment, on va dire, intergénérationnelles.
Voilà, donc
le papa pour l'enfant.
Le père aimerait que le fils prenne la succession du business. Sauf que le fils, en fait, pendant une soirée, découvre le piano. C'est le pianiste qui a été embauché ce soir-là pour une réception, qui se met à jouer au piano. Et c'est une espèce de coup de foudre artistique, quoi. Voire même humain, ça sera pour plus tard. Et puis voilà, ça devient sa passion et son père n'est pas trop d'accord pour qu'il fasse du piano, donc il va commencer à prendre le piano en cachette.
Et lui donne les raisons.
Et bien sûr.
C'est qu'en fait, il espère qu'il prenne la suite un peu de la famille, en fait, des ambitions professionnelles familiales. Mais sauf qu'en fait, François, lui, c'est que la musique et le piano, quoi.
Ouais. Et puis en fait, au fur et à mesure, il va aussi tomber amoureux de sa prof de piano, qui est juive.
Qui est beaucoup plus âgée que lui, hein.
Qui est beaucoup plus âgée que lui, oui, c'est vrai qu'elle a... Bon, c'est pas très clair, mais c'était 10-15 ans, quoi.
On le voit physiquement, en tout cas, dans le film.
10-15 ans, voire 20 ans d'écart. Mm-hmm. Et puis, étant juive, elle va se faire des...
On précise la période où se passe ce film.
Oui, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et donc, évidemment, quand on a ce type d'origine, ça devient très problématique.
Ouais.
Et donc, forcément, en fait, cette étoile jaune, entre guillemets, va devenir extrêmement préjudiciable pour cette prof de piano, dont vous êtes tombé, entre guillemets, amoureux, en fait. Et du coup, évidemment, le film prend une toute autre allure.
Oui. Disons que François va devoir faire des choix...
Ces fameux choix, le choix du pianiste.
C'est vraiment assez compliqué pour un artiste, enfin pour un humain tout court même.
Bien sûr.
Pour sauver celle qu'il aime.
Alors, ce film, en fait, pour vous, Oscar, évidemment, c'est aussi une porte ouverte pour probablement des projets encore plus ambitieux. Vous occupez le premier rôle, on le redit. Qu'est-ce que ce film dit de vous?
J'ai envie de dire que toute performance, j'aime pas trop ce mot, mais tout jeu d'acteur,
on
va révéler quelque chose, on va forcément voir à travers le jeu, la composition. Il y a un corps, il y a des meanings, des façons d'être, une voix, donc ça révèle déjà ça, tout bêtement. Ça, moi, ça m'a révélé que c'était effectivement une lourde tâche d'avoir un premier rôle. Ça nécessitait beaucoup de travail, surtout que le rôle il s'étend sur 20 ans. Donc il y avait différentes périodes de sa vie où il n'est pas du tout au même endroit, soit psychologiquement. En tout cas, moi, ce qui m'a plu chez ce personnage, c'est son immense naïveté au début du film, en tout cas, où il ne comprend pas qu'on puisse traiter des humains différemment en fonction de leur
religion. C'est pur swing, finalement.
Voilà, c'est extrêmement pur. Et même une fois qu'il commence à comprendre un peu comment on fonctionne le monde dans lequel il vit, c'est une espèce de refus de baisser les bras, du courage, quoi. Et
son opiniâtreté.
Ouais, son opiniâtreté, décider d'aller jouer, mettre son service, mettre son art, pardon, au service
de ce qu'il y a eu
de pire dans l'humanité, ouais. Pour une cause qu'il estime juste, et cette cause étant l'amour.
Le trait d'union de toutes ces scènes, quelles qu'elles soient, c'est la musique. Chopin est omniprésent dans ce film.
Ouais. Oui, en tout cas, c'est sûr que c'est sa passion. Quoi. Moi, j'essaie de tisser des liens avec ma passion première qui est le jeu, le cinéma. Et c'est vrai que quand ça vous prend, ça occupe toute votre vie. Même là, aujourd'hui, quand j'écoute, je sais pas, des podcasts ou je regarde des vidéos sur YouTube, c'est principalement
sur
le cinéma. Après, j'aime beaucoup la musique. Donc, on va dire que c'est musique et cinéma.
Qui est très compatible.
Ouais. Et voilà, donc je pense que c'est avec François, la musique qui prend une place immense dans sa vie et qui est aussi intimement liée à son histoire d'amour, parce que la femme qu'il aime est également sa prof de piano, c'est celle qui lui a légué son savoir, c'est celle qui a
la transmission
et donc je pense que la musique et l'amour sont indissociables pour lui dans sa tête. Et puis il y a une deuxième relation dans le film que je ne nommerai pas, mais qui est aussi en quelque sorte liée à la musique. Enfin, ça, je vous laisse le soin de le découvrir. Ouais.
Et c'est là où on va donner envie aux gens d'aller voir ce film. Ouais. On a bon espoir pour qu'il ait une très belle vie, parce que c'est une très jolie histoire. Ouais. Oscar, vous avez certainement quelques actualités brûlantes dont vous allez peut-être nous faire un peu étal.
Brûlante, je ne sais pas, mais écoutez, en ce moment, je suis. C'est un petit rôle, mais si vous en. On pourrait appeler un très gros film, c'est un film américain qui s'appelle The Substance. On a tourné à Cannes et Cannes est devenu Los Angeles.
D'accord.
Et dans des studios parisiens.
Okay.
Donc voilà, c'était une courte expérience, mais c'était...
Okay.
Voilà.
D'accord.
Sinon, j'ai joué dans la saison 2 de Marie-Antoinette, série d'époque, ouais. D'accord. Je joue le duc d'Orléans. Et puis...
Très proactif alors.
Ouais, ça va, je me plains pas. Et puis il y a un film... je ne sais pas comment il s'appelle à ce jour, je crois que le titre a changé, mais c'est un film suédois réalisé par Fanny Ovesen, dans lequel je joue un Français. Je ne peux pas en dire plus sur mon rôle parce que ça spoil immédiatement, mais voilà.
Merci infiniment pour ce partage.
Plaisir.
Oscar, il y a une petite tradition à la radio du cinéma.
Oui.
Je vous sais passionné par le cinéma et donc je vais forcément vous cuisiner un peu sur les films, sur les musiques et sur les répliques préférées. Donc, si vous voulez bien nous offrir votre film, votre musique et votre réplique préférée, ça nous fera grand plaisir.
Alors, mon film préféré, je ne sais pas si c'est mon film préféré, j'ai du mal à avoir un film préféré.
On a toujours des petits coups de cœur comme ça en fonction des périodes.
Plein de coups de cœur, mais j'ai pensé...
Imaginez que vous partez sur une déserte, vous devez aller un film. Est-ce que c'est celui-là?
Bah, je pense, parce qu'en plus, il est très long, donc ça permet de, regarder en plusieurs épisodes.
D'accord.
Non, mais surtout, en fait, c'est une scène particulière, très précise dans le film qui m'a fait le choisir. C'est Il était une fois en Amérique de Sergio Leone.
D'accord.
Et en fait, c'est...
Bellissime.
Ouais. Et c'est une scène où il y a un petit garçon qui va acheter une pâtisserie pour une fille qui lui plaît. D'accord. Et donc, il arrive, il frappe à la porte, mais elle est occupée, donc il attend. Et puis en fait, il attend, et le gâteau est trop irrésistible. D'abord, il mange la petite cerise qui est sur le dessus, et puis il finit par tout manger.
D'accord.
On a la musique d'Ennio Morricone avec tout ça, c'est une scène magnifique. Quoi.
Alors, votre musique préférée ou votre compositeur préféré?
Vous
aimez la musique, hein, il faut préciser.
Oui, bien sûr, j'en fais même.
Ah, de quel instrument vous jouez, à part le piano dans ce film?
À part le piano, je fais de la guitare, mais après je chante, je rappe aussi. Et je fais beaucoup de musique sur ordinateur, en fait.
On va peut-être... Vous avez une page ou quelque chose?
Ouais, j'ai un compte. J'ai une page Spotify, Apple Music, tout
donc
ça.
Donc, on peut trouver ça comment, alors, du coup?
Taper Oscar Le Sage.
Ah, excellent. C'est une vraie info, en fait. On ira, par curiosité, écouter tout ça.
Yes, avec plaisir.
Et donc, du coup, la musique préférée?
La musique, c'est à nouveau Ennio Morricone. Hein.
Ah.
Et en fait, c'est dans un autre film de Sergio Leone qui est Duck, You Sucker. Je crois que le titre français, c'est Il était une fois à la Révolution.
Bien sûr.
Et c'est, moi, je crois que c'est le thème principal du film qui à chaque fois, je peux l'écouter en boucle, je la trouve...
Ça vous habite complètement.
Ouais, globalement, Ennio Morricone, c'est vraiment incontestable même.
C'est vos oreilles, quoi. Vous ne pouvez pas vous en passer.
Ouais, ça m'a... Ça...
Et est-ce que ça vous inspire? Est-ce que, par exemple, quand vous préparez un rôle, est-ce que la musique peut conditionner un certain nombre de vos émotions pour préparer le rôle?
Je sais que pour le choix du pianiste, je me suis fait une playlist...
bien dédiée.
Une playlist François, donc il y avait beaucoup de Chopin et d'autres musiques, des musiques qui pouvaient me faire penser à Rachel, sa prof de piano, ou à Annette.
Vous êtes tombé amoureux dans le film, on est bien d'accord.
Voilà, c'est ça. À quel point ça m'a aidé, je ne saurais pas dire, mais...
Assurément, c'est une présence, quoi. C'est un...
En tout cas, je l'ai fait et je suis content de l'avoir fait. J'ai écouté la playlist régulièrement. Ouais.
Excellent. Ouais. D'accord. Et c'est récurrent dans chaque film? Vous avez toujours une playlist pour préparer des rôles ou en tout cas pour influencer vos émotions dans certains films?
Je crois que c'était la première fois que je le faisais.
D'accord.
Et parce que j'en ai ressenti le besoin, il y avait plus de boulot, c'était... Il passe par tellement d'émotions, il y a tellement de trucs qui lui arrivent. Disons que j'ai eu un mois avant le tournage très intensif, et avant ça, des cours de piano, et puis j'apprenais le texte et tout ça, mais c'était tous les jours, c'est... Oui.
Ça, c'est très intéressant de partager ça, parce qu'on ne se rend pas compte de la somme de travail que ça représente.
Après, je veux dire, il y a des gens qui, effectivement, bossent des rôles 4 ans en amont, d'autres qui ne bossent pas du tout. Chacun sa technique. Moi, je sais d'expérience que je préfère avoir bien bossé avant parce que...
Et puis, vous avez un parcours. Vous avez étudié le théâtre.
Oui, il y a ça aussi.
Vous pouvez vous appuyer sur des repères, quoi.
Bah, je pense que ça m'a donné une rigueur de travail.
Bien sûr. C'est votre solfège.
Ouais.
Et alors, du coup, on veut bien entendre, en fait, votre réplique préférée.
Ah oui, ma réplique préférée. Bah, écoutez, je sais pas si vous allez... Je pense que vous allez la reconnaître. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Si vous n'aimez pas la mer... Si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Il y a une autre phrase de Rabutsu d'ailleurs que j'aime beaucoup, ouais. C'est on pose une question à, d'ailleurs je crois que c'est un auteur ou réalisateur célèbre, mais je ne sais plus qui c'est dans le film.
Ouais.
Et je ne sais plus quelle question on lui pose, mais je sais qu'il répond « devenir immortel et puis mourir ».
Quelle est votre plus grande ambition dans la vie ?
Devenir immortel et puis mourir.